de conduite dangereuse. Et le gouvernement Legault présentait hier enfin sa modernisation de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, qu'on appelle la fameuse loi P38. C'est le projet de loi 23 là, qui a été présenté pour mieux accompagner les personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui. On s'attaque surtout aux critères d'intervention pour forcer l'hospitalisation d'une personne contre son gré. La notion de danger grave et immédiat qui est en quelque sorte remplacée par celle de situation où il existe un danger pour la personne ou pour autrui.
Il est en ligne, c'est le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui est derrière cette réforme-là. Monsieur Barrette, bon matin, merci d'être là.
Bonjour.
P38, ça n'avait pas été revu en profondeur depuis la fin des années 90. Pourquoi aujourd'hui?
Bien, en fait, vous savez, c'est réclamé par plusieurs intervenants, notamment les psychiatres, les policiers, les familles également, des personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale. Je pense qu'au cours des dernières années, on a vu les limites de la loi actuelle, notamment par rapport aux différents drames qui sont survenus. Alors, l'idée, là, avec le projet de loi qui a été déposé par ma collègue, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, hier, c'est de faire en sorte de donner davantage d'outils pour soigner les gens avant qu'il arrive quelque chose.
Donc, ce qu'on dit, c'est que les travailleurs de la santé et les policiers auraient une plus grande marge de manœuvre pour intervenir sur le terrain, comme M. Legault l'avait annoncé dans son discours de la rentrée à l'automne. Maintenant, une fois qu'on envoie ces gens-là à l'hôpital ou dans des instituts pour se faire aider, on a-tu toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir tout ce beau monde-là?
Oui, la réponse, c'est oui. Puis, il faut comprendre qu'actuellement, le critère de la loi actuelle, là, c'est un danger grave et immédiat. Fait combien de cas de témoignages qu'on a eu où, supposons, vous avez des parents qui ont un enfant qui souffre de schizophrénie ou de bipolarité, ils l'amènent à l'hôpital parce qu'ils savent que son état de santé mentale est affecté, puis refus de prendre des médicaments ou autre élément. Et là, le médecin à l'hôpital, le psychiatre à l'hôpital ne peut pas le garder parce que c'est pas un danger immédiat pour l'instant. Alors, mais on sait qu'il est malade. Alors là, on vient changer le critère pour amener un risque de compromission, ce qui veut dire que s'il y a des risques que l'état de santé mentale de la personne se dégrade, bien, ils vont pouvoir le garder pour faire des évaluations psychiatriques, pour pouvoir le soigner. Et en même temps, on modifie le parcours devant les tribunaux pour faire en sorte de diminuer le nombre de fois qu'on va à la cour. Parce qu'actuellement, là, avant de pouvoir même faire une évaluation psychiatrique de la personne, il fallait demander l'autorisation à la Cour du Québec. Alors, on enlève ça pour permettre au psychiatre ou à l'infirmière praticienne spécialisée d'évaluer la personne et par la suite de demander la garde au tribunal administratif du Québec. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on simplifie le processus judiciaire. Avant, on avait trois cours. On avait les soins à cour supérieure, on avait la garde à cour du Québec, puis on avait la commission d'examen des troubles mentaux au TAC. Là, on fait une division spécialisée avec l'ensemble de ces trois juridictions-là au tribunal administratif du Québec, puis on va offrir l'aide juridique gratuite pour les personnes qui ont un trouble de santé mentale afin d'assurer leurs droits.
Simon-Jolin Barrette, quand je parle avec des gens qui sont en santé, on me parle que les places sur les civières puis les chambres sont assez contingentées. Là, si on ajoute du monde là, il va y avoir une certaine problématique. Là. on est déjà en manque de place dans nos hôpitaux. J'espère que tout ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes allé vous promener dernièrement dans le quartier Saint-Roch à Québec ou encore sur la Sainte-Catherine à Montréal?
Oui.
Il y a énormément de gens qui sont intoxiqués par la drogue et l'alcool. Il y a des gens là-dedans qui ont malheureusement pas de logis et ils meurent dans la rue tout simplement, que ce soit par froid. Est-ce que ces gens-là vont être touchés par ce nouveau projet de loi-là que vous mettez en place?
Bien, toutes les personnes qui ont un trouble de santé mentale et qui ont besoin de ressources et d'accompagnement, ça, on vient modifier ça dans le projet de loi pour créer comme une bulle de sécurité auprès des gens avec une meilleure communication de l'information entre les policiers, les gens des services sociaux, les gens de la santé, les gens de la justice. Fait que ça va aider. Puis pour revenir à votre question là, sur dans le réseau hospitalier là, par rapport aux civières, bien souvent, il y a des interventions. Les gens sont amenés à l'hôpital, mais ils sont pas soignés, puis c'est le phénomène des portes tournantes.
Exact.
Ils reviennent. Parce que les épisodes se produisent. Ils sortent de l'hôpital, puis l'épisode, la situation se dégrade. Alors, en soignant beaucoup plus rapidement les gens, en simplifiant le processus, on va pouvoir les remettre sur pied plutôt que d'accentuer le phénomène parce que on multiplie les démarches actuellement pour le même patient. Alors que s'il était pris en charge beaucoup plus rapidement, ça va diminuer la pression à la fois sur les policiers, à la fois sur le système de santé, puis à la fois sur la personne aussi, parce qu'elle, lorsqu'elle se retrouve ballottée, retourne dans la rue, revient à l'hôpital, passe devant le tribunal, retourne dans la rue, c'est pas mieux. Donc, mieux travailler puis répondre à la réalité du terrain, ça va beaucoup aider.
Est-ce qu'on pourrait rouvrir Robert-Giffard à Québec, exemple, un endroit où on était capable de soigner ces gens-là avec les spécialistes qui étaient autour, avec des permissions de sortie pour ceux qui étaient pas dangereux?
Bien, sur cette question-là, je peux pas répondre à cette question-là. Ça relève davantage de ma collègue de la santé.
Par rapport au cheminement, qui va décider si la personne est apte à retourner en société? Est-ce que c'est le soignant ou la justice?
Bien, c'est un travail de collaboration entre les deux, là. Nous, la justice, on est en support aux demandes des hôpitaux en vertu du cadre légal. Donc, désormais, la personne qui va être à l'hôpital, si l'infirmière ou le médecin juge que cette personne-là devrait être gardée pour subir une évaluation psychiatrique, ils vont pouvoir le faire et par la suite, pour le garder plus longtemps, ben là, c'est les tribunaux qui embarquent, c'est le tribunal administratif du Québec. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Le tout dans le respect du droit de la personne qui souffre de troubles de santé mentale, mais aussi de la prise en considération de l'opinion des proches va être importante.
Oui, c'est ça. Et parlant justement de l'opinion des proches, ils appellent où? T'sais, c'est un appel au 911, ouais, vite, venez intervenir, aller chercher mon fils, amenez-le à l'hôpital. Passes-tu par les services sociaux, par le 811 par exemple? Par où ils devront passer comme cheminement?
Mais il y a différentes situations en fonction du cas aussi. C'est sûr que quelqu'un qui est vraiment en grave crise puis qui menace de poignarder quelqu'un, vous comprendrez qu'on n'appelle pas le 811, mais qu'on appelle le 911. Donc, les policiers ont toujours ce pouvoir-là. Par contre, vous savez, les familles qui vivent avec leurs proches qui sont atteints d'un trouble de santé mentale, ils le savent, là. Ils monitorent leur état de santé, fait qu'ils vont pouvoir appeler, que ce soit leur travailleur social, leur infirmière, tout ça, pour amener la démarche, pour toujours tenter de faire réaliser à la personne qui est atteinte de troubles de santé mentale de peut-être avoir une hospitalisation volontaire de la personne. Donc, on travaille toujours pour faire en sorte d'accompagner la personne vers des soins, puis ce n'est qu'en situation exceptionnelle qu'on force leur hospitalisation. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte la démarche de la personne. Puis, une nouveauté qui est très importante que la ministre Bélanger a intégrée dans le projet de loi, c'est les directives anticipées. Donc, supposons que vous êtes atteint d'un trouble de santé mentale puis que vous êtes stable, mais vous allez pouvoir désormais le donner des directives si jamais vous vous retrouvez en situation de crise pour dire, ben moi, je veux recevoir les soins si jamais le médecin constate que je suis dans l'état X, Y, Z de difficulté. Un peu comme les directives médicales anticipées, ouais. Lorsqu'on parle de mourir en dignité, là, ça va être pour des soins, pour recevoir des soins, parce que je ne suis plus en mesure, lorsque je suis en situation de crise, de donner mon consentement libre et éclairé, parce que mon état de santé mentale, il est altéré. Alors ça, on va venir prévoir ça, puis les proches vont être au courant, vont pouvoir le faire avec le médecin traitant, avant que la crise survienne. Donc ça, c'est une nouveauté qui, justement, nous permet d'éviter de judiciariser et plutôt d'aller vers une approche de soins de santé.
Oui, puis je vous félicite pour ça. Ça a bien du sens. J'espère juste que tout ça sera concret puis ça va être un plus pour notre belle société. Simon Jolin-Barrette, vous êtes ministre de la Justice. Aujourd'hui, le gouvernement annonce une enveloppe de 4 millions de dollars pour renforcer les capacités d'action du milieu scolaire, des policiers, des procureurs dans la prévention d'envoi de sexto. Il va y avoir de l'argent pour la formation des policiers à l'École nationale de police du Québec et pour l'application de la méthode Sexto. Concrètement, pourquoi on en est rendu là? On constate que c'est un phénomène qui est grandissant, l'envoi de photos de nus chez nos adolescents?
Bien, effectivement, c'est un phénomène qui est grandissant. Vous vous souviendrez l'an passé que j'avais fait adopter une loi aussi pour lutter contre le partage d'images intimes sans consentement. Vous savez, c'est un phénomène qui touche un grand nombre de jeunes. Et là, désormais, ben, outre la formation policière qu'on annonce aujourd'hui, c'est aussi le fait que c'est maintenant on peut accéder rapidement à la cour avec une ordonnance pour limiter et diffuser, limiter la diffusion d'images intimes qui ont été sollicitées sans consentement. Et depuis qu'on a mis ça en vigueur l'an passé, au mois de mai, on a une ordonnance de la cour par semaine qui permet d'aller chercher la photo, le vidéo directement dans les mains de la personne, la diffusion, pour dire, ben écoutez, arrêtez la diffusion ou le risque de diffusion, parce qu'il y a beaucoup de menaces aussi associées à cela. Supposons une jeune femme a envoyé une photo à quelqu'un et lui dit, ben fais ça, sinon je menace de faire ça. Alors, on a des recours désormais faciles pour les victimes pour empêcher ça.
Merci beaucoup.
Un grand plaisir. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir. Simon-Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, qui nous parlait du durcissement du P38 pour les hospitalisations forcées. Je trouve que sur papier, c'est exceptionnel.
Vraiment.
On en était rendu là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce qu'encore une fois, on met un poids supplémentaire sur les gens qui travaillent en santé.
C'est ça. Au niveau des urgences psychiatriques, comment ça va se passer? C'est là que...
Mais fais pas d'amis, moi, depuis des années. Puis avec Denis, on en a parlé souvent. Puis toi aussi, Jeff, avec Max. Ouais. Rouvrez Robert Giffard, sacrifice.
À tout le moins, rouvrir un endroit qui va permettre d'avoir une plus grande capacité.
Ouais. C'est parce que Robert Giffard, si tu regardes à vue d'oiseau là, sur mm-hmm. la map, là, tu vas voir qu'il y a des endroits où les gens peuvent sortir. Profiter de l'air extérieur.
T'as raison.
Sans nécessairement sortir du
bâtiment. Non, t'as entièrement raison.
Du bâtiment. C'est bien aménagé. Puis je comprends qu'on a mis plein de bureaux là-dedans, les fondations, patati et patata. Mais avec le nombre de bureaux vacants qu'on mm-hmm. a du gouvernement à Québec, là, on est capable de déplacer ces gens-là puis de remettre les gens malades à cet endroit-là avec des professionnels qui sont là pour les traiter.
On a ramené, là, tu vas me dire, sa petite échelle, là, c'est entre 20 à 30 lits. À cet endroit-là, j'avais assisté à la conférence de presse l'an passé pour justement des gens qui entrent en thérapie prolongée. Donc, on a rouvert une espèce d'aile là-bas, là, au niveau de Robert Giffard, associé avec la Fondation Cerveau.
Moi, je sais que ça va te surprendre, mais j'ai été à Robert Giffard.
Ouais.
C'était pour aller me chercher un holter, un moniteur cardiaque
oui.
qui, pendant 24 ou 48 heures, allait surveiller mon cœur. Puis là, on me dit, c'est à Robert Giffard. Je peux pas aller là, madame, ils vont me garder. Elle dit, non, on fait plus ça. Non. Fait que là, je suis allé là.
Fait que t'étais correct.
C'est dans le sous-sol. Puis avec les trappes de ventilation, il reste encore quelques résidents à Robert Giffard qui ne ferment pas étanche.
Ouais, ouais.
T'es entendu par la trappe de ventilation. Ça m'avait marqué. Puis mm-hmm. Il y a à peu près 10-15 résidents de ce qu'on m'avait expliqué qui sont là. Bien, c'est tellement un bel endroit pour eux autres où tu peux mettre des professionnels qui sont là pour les aider. Clinique ouverte aussi. Mm-hmm. C'est des gens qui sont là pour avoir des soins. Je comprends pas pourquoi on a désinstitutionnalisé tout ça, puis on a dit, tiens, ces gens-là vont être mieux en société. Peut-être qu'à certains égards, ça a bien été, mais pour d'autres, là, on en va au centre-ville de Québec qui devrait être à l'intérieur d'un endroit en toute sécurité pour leur
accompagné
sécurité.
Par des professionnels pour revenir contribuer à la société par la suite s'il y a lieu, là, parce que dans certains cas, malheureusement, on n'arrivera jamais à rétablir à 100%. J'aime bien, par exemple, comme l'aide médicale à mourir, la demande que tu peux faire au préalable quand tu as toute ta tête de dire « Hey, je veux absolument être soigné s'il m'arrive un événement. » Je l'avais pas lu ça dans les médias. Je trouve que c'est un point hyper intéressant et très pertinent. Ça va donner en plus la légitimité à la famille quand la personne est en crise de dire « Non, regardez, ça vient de cette personne-là. Elle veut être soignée. »
Ouais. Et pour ce qui est de ce qu'on met en place là, avec les fameux sextos, là, on met 4 millions là-dessus. Ouais. Je sais pas comment aborder ça avec mes enfants.
Les sextos?
Ouais.
C'est non.
OK.
Non, mais dans le sens...
Josh, Isaac, Nancy, sexto, c'est non.
Non, mais dans le sens que moi, j'ai toujours dit à mes gars, faites pas ça, les gars. Montrez pas votre membre, puis demandez pas à une petite fille de se déshabiller.
Puis penses-tu qu'ils l'ont jamais fait?
Max, est-ce que ton père avait eu cette discussion-là avec toi? Nous autres, ça existait pas, les sextos.
Là, c'est ma mère.
Ta mère a eu cette discussion-là avec toi?
Ouais, elle m'a dit, c'est non, puis on le fait pareil. Là, je veux dire.
Pardon?
Ben non, mais dans le sens, t'es un ado. Ton père a dit, c'est non, ta mère t'a dit, c'est non. Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Tu penses que tes gars ont jamais envoyé une photo de leur engin?
Elliot à 18 ans, peut-être. Là, il est rendu à 18.
Ah, il attendait à 18.
Max. Vraiment. Moi, je surveille. Je fais des check-ups des communications de mes gars. Fait que je suis jamais tombé sur des sextos. Okay.
Max,
tu
as eu cette conversation-là avec ta mère.
Oui.
L'as-tu écouté?
Ben, non. Je l'ai dit que non.
Ben là, tu viens de nous le dire.
Oui.
Parce que tu as dit « on ».
On, c'est-à-dire?
Ben, on fait pas ce que nos parents disent.
Ouais, ben, c'est ça.
Donc, toi, t'as pas écouté ta mère.
Mais non.
Il y a combien d'exemplaires?
De photos de moi, de moi nu? Ça n'existe pas. Il y en a pas. C'est des gens de confiance qui conservent pas ces photos-là. Là.
Les photos n'existent pas. C'est des gens de confiance qui conservent pas ces photos-là.
Ouais, la petite ado de 14 ans pense aussi de son petit chum de 16.
Ben, c'est ça qui est un problème. Puis c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à ce problème-là.
T'as pas peur que ça te revienne dans la face à un moment donné?
Il n'y a pas moyen d'identifier que c'est à moi.
Ah non?
Non.
Fait que c'est jamais avec ton visage?
Ben non, jamais. Ben non.
OK.
Mais... De toute façon, comment tu veux faire ça?
Je te pose des questions comme ça parce que c'est la première fois que quelqu'un m'avoue ça. J'ai jamais eu cette discussion-là avec un chum. Est-ce que c'est à la demande de la dame?
Ben oui, jamais je ferais ça. Jamais je vais envoyer un hey coucou avec ça, là.
Et pourquoi la dame veut voir ton engin?
Ben ça, il faudrait demander aux dames, là.
C'est ça. S'il y a des gars qui envoient leurs photos, c'est parce que les filles le demandent.
Ouais, ça arrive. Ouais. Plus que vous pensez, peut-être, okay. Là. Tu sais, oui, on parle beaucoup des dick pics non sollicités, mais il y en a des très sollicités aussi.
Dans toutes les circonstances, les gars, faites pas ça.
Les gars peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ouais. Pas les mineurs. Les mineurs, faites pas ça. Ça, c'est clair. Mm. Les mineurs, vous pouvez pas, c'est de la pornographie juvénile.
C'est parce que la meilleure façon de ne jamais retrouver une photo de toi nu sur Internet, là, Max, c'est de ne jamais envoyer de photo de toi nu.
Parce que là, je viens de vous envoyer...
Qui se prend en photo tout nu?
Non, je viens de vous envoyer quelque chose dans notre groupe, là, justement. Là. Puis vous allez voir, t'sais, c'est juste un screenshot que j'ai fait. C'est un texto de Max. Puis là, on voit très bien t'es, le nom Max Larouche en haut et tout ça. Donc, même si tu mets pas ta face,
il y a
quelqu'un qui peut faire...
Oui, mais tu fais pas ça sur Messenger, tu fais ça sur Snapchat, la photo qui disparaît. Puis s'il y a un screenshot...
Il nous donne les trucs en plus.
Ben oui, mais non, mais tu fais pas ça sur Facebook.
Hey, mon oncle Fortin est en retard en grimpe.
Fortin, les dick pics sur Messenger, ça va être beau, là.
OK, fait que
c'est, faut pas que ça soit sur Messenger, Max.
Ben non.
Fait que c'est pour ça qu'il faut que je craigne Snapchat, moi.
Ben oui, Snapchat. Si tes kids ont déjà envoyé des photos, c'était pas sur Messenger, c'était sur Snapchat, là.
Ah, puis là, sur Snapchat, ils ont fait disparaître la photo.
Ben, elle disparaît tout seul. T'as aucun moyen de le savoir, Jeff. Je suis désolé de te l'annoncer, mais je suis pas mal sûr que tes gars ont déjà fait ça, là. Je veux pas les accuser, là. Mais
mes gars ont des bonnes valeurs.
Donc là, toi, dans ton cas.
C'est quoi les mauvaises valeurs là-dedans?
Dans ton cas, précisément, là, c'était à la demande de madame.
Ben, quand ça arrive, oui. J'ai jamais fait ça. Je dis pas. Les dick pics non sollicités, ça, c'est complètement jambon. Là. Faites pas ça. Là. Un bonjour avec ça, là, elle l'a pas demandé. Là.
Mes patrons me diraient de pas aller là. Mais comme je suis un journaliste d'enquête, ça. Faut-tu que ça.
C'est-à-dire?
Faut que ton membre soit en expansion?
Ben oui, sinon, la fille veut pas voir ça. Tout petit recroquevillé.
Recroquevillé.
Non, faut que ce soit une belle photo, là.
OK. Puis, ça a-tu déjà fait la différence?
C'est-à-dire?
Ben, dans le sens qu'une fille a dit, « Oh, wow, c'est clair que je m'en viens chez vous. »
Peut-être pas à ce point-là, mais dans le sens, ça peut faire monter,
Ça fait monter l'excitation, la libido.
OK.
Ah oui, mais il y a des filles qui le demandent, puis des fois ça se fait. Pis,
Autre génération, autre mœurs.
Mes boss me diraient de pas aller là, mais. Est-ce qu'ils le font avant de te rencontrer?
Oui, ça peut arriver.
Ça a-tu.
J'adore la conversation.
Ça a-tu. C'est-tu arrivé qu'elle a comme jamais répondu par la suite?
Non. Non, c'est jamais arrivé. Non, c'est...
Ah! Parlons du Canadien. Les sports.